Parashat Shemot, suite. Chers amis, Hachem, Alechem, Tihyu, Leorechem, Tovim, Veshanim, Neaimim. Akadosh Baruch Hu a entendu la prière. Il a entendu le cri, la plainte, le hurlement de douleur de Am Israël. Et il est dit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a vu et a su. Kadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe dans la vision du buisson ardent. Et il appelle Moshe. Vayomer Moshe, Moshe. Vayomer Ineni. Moshe lui répond, me voici, je suis prêt. Nous dit le Midrash. Vayomer Ineni. Ineni likhuna ul malchut. Je suis prêt à endosser la fonction de Kehuna Gdola, de la grande prêtrise, et de la royauté. Et alors, que lui dit Hachem? Hachem lui dit, Vayomer al tikrav halom. Il lui dit, ne t'approche pas plus loin, ne t'approche pas. Le mot halom est commenté dans le Midrash comme étant les deux fonctions. Klomar, il lui dit, ne t'approche pas. Nous dit le Midrash, Klomar, lo yubanecha makrevim. Tes enfants ne seront pas des Kohanim qui feront les sacrifices. Parce que cette fonction, la Keuna, est déjà destinée à Aaron, ton frère. Halom, zumalchut. Akadosh Baruch Hu lui dit, la royauté est déjà destinée à David. Cependant, Afal Piken nous dit le Midrash, Zacha Moshe Bishtehem, malgré tout, Moshe a rempli ses deux fonctions pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Il était Kohen Gadol pendant cette période-là, ces 7 jours, et pendant toute sa vie, il a été considéré comme étant le roi d'Israël, comme il est dit, Vahi Bishurun Melech. Plus loin, au bout de la discussion qui dura 7 jours, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, Shelah Nabi Atishlach, envoie qui tu as l'habitude, envoie quelqu'un d'autre. Il refuse d'aller en mission, de par sa modestie et de par d'autres considérations. Et alors il est dit, Vayharaf Hashem be Moshe. Hashem s'est emporté contre Moshe. La colère d'Hashem a frappé Moshe. Le Midrash demande, Maharon Afayasham, quelle colère a laissé cette trace. En quoi ça se manifeste? Nous dit le Midrash, « Shenitla keuna mi Moshe, vinitena le Aaron. » La prêtrise a été prise de Moshe et a été donnée à Aaron. A priori, ces deux Midrashim se contredisent. La keuna, la prêtrise, était déjà destinée à Aaron. Alors que dans le premier Midrash, nous comprenons que la prêtrise aurait pu être à Moshe. Il demande la prêtrise et il ne l'obtient pas. Mais il dit déjà, elle est à Aaron. Là, si tu avais accepté la mission, alors Akadosh Baruch Hu ne se serait pas fâché et tu aurais obtenu. Il y a une autre question. Comment Moshe peut réclamer la royauté et la prêtrise? Voilà que la royauté a été déjà donnée à la tribu de Yehuda, comme il est dit dans la parasha de Vayikhi, dans les bénédictions. Yaakov bénit Yehuda et lui dit « Lo yasur shevet me Yehuda ». Shevet, c'est le sceptre de la royauté. Ce sceptre-là appartiendra tout le temps à Yehuda. Ne pourra jamais être donné à quelqu'un d'autre. Alors comment Moshe Rabbeinu a pu réclamer cela? Et de quoi parle-t-on? De quelle qualité de keuna, de prêtrise? Et de quelle qualité de royauté parle-t-on? Nous savons que Moshe refuse la mission parce qu'il considère, il comprend que la galoute ne sera pas, la délivrance d'Égypte ne sera pas définitive. Il y aura malheureusement d'autres exils. 4 exils qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu. Yud-Ké, Vav-Ké. L'exil d'Égypte n'est pas dans une lettre. Elle est encore plus puissante que ça. Elle englobe tout. C'est la pointe qu'il y a sur le Yud. Cette pointe-là contient tout. En fait, l'exil qui est en Égypte et prépare les quatre autres exils. Il y a la particularité de chacun des quatre exils qui sont Babel, Paras ou Madaï, la Perse. Babel, c'est la destruction du temple par les Babyloniens. C'est considéré comme étant la faute de Avodah Zara, l'idolâtrie. Puis vient les Perses. C'est la période de Pourim, où ils ont voulu détruire tout le peuple juif. C'est l'interdiction de verser le sang, Shfichut Damim. Puis viennent les Grecs, qui, la transgression particulière qu'il y avait à cette époque, c'était la sexualité dépravée, Gilou Arayot. Et puis viennent les Romains, où la particularité de la Avera, c'est la faute de la parole. Le Lashon Hara, la parole qui est libérée. La parole, la profanation, la salissure dans la bouche. C'est la dernière. Et en Égypte, il y avait ces quatre-là. Donc Moshe Rabbeinu sait pertinemment qu'il n'y aura pas une délivrance totale. Et en cela, il refuse la mission. Il dit, je veux être celui qui va libérer de manière définitive Am Israël. Et de quelle royauté parle-t-il? Il parle d'une royauté qui est différente de la royauté temporelle. Il parle de la royauté qui est une royauté totale, celle qui est assimilée à la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est ainsi qu'il a été roi pendant 40 ans. De quelle Keuna parle-t-il? Il parle de la Keuna qu'a possédé Shem ben Noach. Il parle de cette Keuna de service divin qui en un homme, elle concentre toute le service total d'Akadosh Baruch Hu, comme l'a fait Abraham. Celle-ci a été prise de Shem, a été donnée à Abraham et qui a été transmise à Yaakov. C'est de cela que Moshe Rabbeinu nous parle. Le Chida ramène au nom de Rabbi Moshe Cordobero, que de par le fait que Moshe n'a pas rempli, enfin, que la délivrance d'Égypte est temporelle, il est dit dans le verset qu'il a envoyé un malach. Vaishlach malach, vayotzi enu mitzrayim. Et nous dit le Chida que le mot malach, c'est l'acronyme de cette phrase. Moshe Lévi, Aaron, Cohen. C'est l'acronyme. Même Lamed Aleph Chaf signifie que Moshe sera Lévi et Aaron Cohen. C'est la sortie d'Égypte. Mais à la fin des temps, nous dit Rabbi Moshe Cordobero, qu'il est dit que c'est Michaël qui va sauver. Voyez Amod Michaël. C'est Michaël qui va nous sauver. Et Michaël est l'acronyme de Moshe Yé Cohen à Aaron Lévi. Ça va se retourner. C'est-à-dire que il y a. C'est vrai que Aaron et Cohen et sert dans le temple, les Kohanim servaient dans le temple. Mais la qualité de la délivrance fera en sorte que Moshe sera encore plus haut que ça. Cette fonction qui est aujourd'hui, qui a été attribuée aux Kohanim de servir dans le temple, sera assimilée au niveau des Lévi'im. Et la fonction de Cohen sera d'un niveau encore plus supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, la réparation des mondes sera d'une telle ampleur que les niveaux montent. La matérialité s'élève, et encore plus s'élève, et encore plus s'élève, pour, en fait, les Kohanim d'aujourd'hui ne seront pas n'auront pas la capacité de faire ce que Moshe devra faire, ce que les vrais Kohanim plus haut encore devront faire. Donc, de manière relative, ils seront Lévi. C'est de cela qu'il s'agit dans la délivrance d'Égypte. C'est ça la sortie de l'exil. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que l'élévation des mondes, la matérialité va être fondue dans la spiritualité. La matérialité qui nous paraît aujourd'hui comme étant dominante, la spiritualité est étouffée dans la matérialité. Ce qui définit exactement l'exil sera, la matérialité sera juste transportée par la spiritualité. Comment on arrive à cela? Qu'est-ce que signifie la délivrance? Pour être délivré, nous avons besoin d'un individu qui vienne nous délivrer. Et l'espoir de la délivrance, l'attente, l'aspiration à la délivrance que nous avons, nous, aujourd'hui, doit ressembler à celle de l'Égypte. Nous vivons peut-être pas d'un point de vue physique cet exil, mais d'un point de vue moral, spirituel. La spiritualité, la kdoucha est étouffée dans la matérialité. Alors, à l'image de Moshe, nous allons voir qu'est-ce que cet homme va agir, va faire, de quelle qualité est cet homme. Il est dit au début de la paracha, nous avons dit que quand Moshe est né, la maison s'est remplie de lumière. La maison s'est remplie de lumière, d'une véritable lumière. C'est-à-dire que l'enfant portait en lui cette lumière qu'il va dévoiler plus loin, plus tard dans sa vie. Quand il a grandi, il sort et voit la souffrance des autres, de ses frères. Et il porte la souffrance des autres en lui. Il souffre avec eux et il veut faire quelque chose pour les en délivrer. Quand il parle à Hachem, il lui dit, quel est ton nom? S'il me demande ton nom, dois-je leur répondre? Les Farshim disent, que signifie que l'âme Israël va demander le nom de Dieu? Bien que ce soit des notions très profondes, en fait, âme Israël, Moshe a craint que âme Israël demande comment comprendre la réalité de la Emouna, de la présence de Dieu dans ce monde. Comment voir, comment comprendre, comment appréhender, comment saisir la Hashgacha, le fait que Hachem, que rien ne se passe dans ce monde hors de sa volonté. Comment comprendre ça? Quel est le nom? Et en prononçant le nom et en transmettant le savoir de ce nom, la Emouna sera établie. C'est ça la question que Moshe pose. Est-ce qu'ils vont me croire quand je vais le leur dire? Est-ce qu'ils vont m'accepter comme étant le guide, le roi de ce peuple? Et Moshe demande un signe. Et à quand on lui dit, qu'as-tu dans la main? Et il lui dit, j'ai un bâton, maté. Maté, c'est le sceptre. Le sceptre de la royauté. Alors il lui dit, jette-le à terre. Il le jette à terre et ce bâton se transforme en serpent. Kadosh Baruch Hu lui dit, tu veux que le peuple t'accepte et croit en toi, s'attache à toi en tant que guide et roi, alors descends de ton trône, descends et rabaisse-toi au plus bas, jette-le à terre. Si tu te rabaisses vers le peuple, la notion de royauté, c'est celui, le roi est celui qui a le souci du bien-être de chacun de ses sujets. Il est responsable de chacun. Il a le souci de donner à chacun, afin que chacun obtienne son nécessaire, son strict nécessaire pour vivre, que chacun vive bien, qu'il n'y ait pas de problème dans ce monde. Et si il en est le responsable, il en est celui qui détient de par son mérite et de par ses actions, le fait que HaKadosh Baruch Hu fasse en sorte que le peuple soit à un niveau matériel correct et spirituel convenable. C'est de la responsabilité du roi. Il lui dit, jette-toi vers le bas, rabaisse-toi au bas. Et dès qu'il jette le bâton devient un serpent. Le serpent signifie deux choses. D'une part, le danger qu'il peut y avoir à ne pas, pour le roi, à ne pas se rabaisser au plus bas. Et deuxièmement, que Moshe va se rabaisser encore plus bas que ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé. C'est la notion du serpent. Le serpent, il symbolise la poussière. Le serpent qui est afar lahmo, il ne consomme que de la poussière. Et Moshe se sauve de ça, du serpent. Il a peur, le danger du serpent. Parce que ça peut, il peut y avoir deux facettes. Le serpent aussi peut être un égoïste. Il détruit les autres sans en tirer profit. C'est ça le danger de la fonction suprême. Akadosh Baruch Hu lui dit, Echos biznavo, si tu te tiens à cela, si tu t'attaches toute ta vie à cela, de manière continuelle, d'être au bas de l'échelle, c'est-à-dire avoir le souci de chacun. Am Israël est comparé à la poussière, le sable de la mer, le sable. Et si tu as à cœur de te rabaisser au maximum, de rien tirer, de ne pas tirer profit pour toi-même, alors il lui dit, saisis-le par la queue. Il saisit le serpent par la queue et le bâton se reforme. Alors il lui dit, c'est de cette manière-là que la royauté sera entre tes mains de manière ferme et affermie, acceptée de tous. C'est le message que HaKadosh Baruch Hu donne à Moshe. C'est ça la notion de la royauté. Le guide. Il n'y a plus de roi, mais il y a des guides dans la génération. Cette semaine, il y a la Hiloula du Rambam. Lui aussi s'appelait Moshe, Rabbeinu Moshe Bar Maimon. Quelle est la qualité spécifique de ce grand maître, illustre maître, qui a codifié tout le Talmud, toutes les halakhot du Talmud, mais pas que ça, un travail immense, inimaginable. Avant, on nous dit, les maîtres disent, « Mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe » de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Bar Maimon, il n'y a pas un chacham comme lui. Il a codifié une Torah orale, chaque halakha du Talmud. Le Talmud est un labyrinthe obscur et sans les mefarshim, sans le commentaire, la décision, sans celui qui va savoir prendre la décision de la halakha. Aucune halakha n'est claire dans le Talmud, il faut savoir trancher. Le Rambam a fait tout ce travail-là de fixer la halakha pour l'éternité. Il a aussi écrit les livres de philosophie pour ramener les gens les plus éloignés, leur ouvrir les portes de la croyance, de la foi, de la connaissance de Dieu. Il a soutenu, et la qualité particulière du Rambam, c'est celui qui a envoyé des missives à toutes les communautés qui étaient dans la souffrance, en particulier la communauté Igeret Teman ou Temanim qui ont souffert terriblement. Il les a encouragés, renforcés dans leur foi, il les a soulevés, il leur a donné de la valeur, il les a accompagnés pour leur permettre de traverser les pires souffrances, terribles souffrances qu'ils ont eu à subir. Il y a une autre lettre où il encourage chacun des Juifs qui va être confronté à l'invasion des musulmans fanatiques qui vont vouloir convertir tout le monde. C'est ce qu'on appelle Igeret Hashmad. Des lettres extraordinaires où il encourage, il donne la foi, il donne la ferveur, il souffre la souffrance de tous ces gens-là qui subissent l'agression de l'extérieur et qui les oblige à se convertir. Le Rambam lui-même, certains disent qu'il a été obligé, toute sa vie, il a fui devant les fanatiques qui voulaient convertir tout le monde. Il a fui et il est arrivé à Fès. Il a dû adopter de manière, en apparence, la religion musulmane jusqu'au moment où il a pu se sauver. Le Rambam est un homme qui est proche, qui vit la vie de ses semblables. C'est ça, mon cher Rabbeinu. C'est ça le grand maître. C'est ça le flambeau d'Israël. Celui qui vit, qui prend à son compte et qui est avec les membres du peuple dans leur souffrance et qui les encourage, qui leur ouvre les portes de la connaissance, qui ouvre, qui donne la foi, qui renforce la foi et qui valorise chacun des actes des individus les plus petits. Et l'essentiel, c'est de s'attacher à Hachem. C'est ça le maître, c'est ça ce que Moshe Rabbeinu réclame. Il dit, comment vont-ils me croire? Ils vont me croire. Alors Hachem lui dit, ils vont te croire si tu sais leur montrer que chacun d'entre eux est important et que tu les as et tu as à cœur de les soutenir, de les renforcer, de les porter. Et c'est ça la mission. À partir de là, Moshe Rabbeinu va remplir cette mission de manière totale et absolue. Et à ce sujet, il est dit dans le verset, il n'y a pas eu un homme modeste sur terre comme Moshe. Moshe se considérait comme rien. Et c'est ça le roi d'Israël. C'est ça le Mashiach qu'on attend est de cette dimension-là. Et si nous aspirons à nous sortir de la matérialité, nous aspirons à la spiritualité, alors nous aurons droit, comme nos ancêtres en Égypte, qui ont crié, qui ont supplié, qui ont hurlé vers Hachem leur douleur, leur espérance de se sortir de la matérialité, de l'étouffement spirituel qu'il y avait en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu a entendu, a vu et a su. Et il a envoyé un homme de la dimension de Moshe. Yehi Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, que nous soyons nous aussi, comme nos ancêtres, que nous élevions le cri de désespoir ou d'espoir de la délivrance vers Hachem et que Hachem nous envoie ce Mashiach qui est de la qualité de Moshe. Bimhera bi'amenu baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.